Merci, merci Pasteur Gérard, merci encore à toute l'Assemblée, merci de m'accueillir, merci Seigneur pour la famille de Dieu, et c'est combien, c'est toujours une joie, un immense plaisir aussi d'être dans la famille de Dieu, avec tous celles et ceux que Dieu a sauvés par sa grâce, par son amour tellement puissant. Voilà, merci infiniment, merci encore Pasteur Gérard, merci Isabelle, et combien aussi je veux saluer Pasteur Jean Olé, aussi avec son épouse. C'est vrai qu'en Polynésie aussi, combien nous sommes aussi reconnaissants envers la France aussi, les missionnaires qui sont venus chez nous pour nous partager le salut. Et au nom de tous les Polynésiens, je voudrais dire un grand merci. Un grand merci à l'Action missionnaire et merci pour toutes vos prières. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Sans plus tarder, je vous invite à lire deux passages. Un premier passage dans le psaume 91. Un psaume qu'on aura certainement l'occasion de revenir dessus. Le psaume 91 qui dit ceci: « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. » Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, te réfugiera sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Amen. Un deuxième passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10. Ce deuxième passage, on va débuter, on va prendre un petit moment dessus. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 13. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire ». Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des temps, des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Les pièges du chrétien ». Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, développer un peu justement cette pensée. Mais avant tout, j'aimerais commencer à vous parler de quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 semaines. En fait, il y a 2 semaines, je me suis ouvert le doigt. Je voulais travailler dans le jardin. Je voulais commencer, avant de passer la débroussailleuse, de commencer autour des plantes. Je sais que Claudine aime beaucoup le jardin aussi, travailler dans le jardin. Et moi aussi, j'aime beaucoup travailler dans le jardin. Alors, j'ai commencé par débrousser autour des plantes avec un coupe-coupe dans la main gauche et puis après, arracher les doigts. Et puis, à un moment donné, il y avait un peu de pluie aussi. Alors, j'ai voulu enfoncer mon coupe-coupe dans la terre pour pouvoir continuer avec les mains. En enfonçant mon couteau, j'ai tellement appuyé que ma main a glissé le long de la lame et puis... Et puis c'était ouvert et c'était 6 points de suture. C'est pas plus par rapport à mon dos, mais je veux parler du tranchant de la lame. C'est vrai que j'aiguise souvent aussi mes grands couteaux justement afin de pouvoir faciliter le travail. Et j'aimerais justement commencer par dire où est-ce que nous en sommes avec le tranchant de notre vie chrétienne, de notre lame. Comment est notre l'âme, notre tranchant en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, en tant que leader ou responsable du Seigneur aussi dans la vie de l'Église. Où est-ce que nous en sommes avec notre tranchant dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie de prière, dans cette relation intime avec Dieu que Dieu veut venir nous encourager et nous aider aussi à développer cette relation avec le Seigneur. Comment est notre tranchant dans notre adoration, dans ce moment de louange où nous ne venons pas seulement dans la présence de Dieu uniquement pour demander de faire ceci, de faire cela ou de nous exaucer, mais aussi passer un moment où on fait silence pour entendre la voix de Dieu et puis aussi avec ces moments aussi nous pousser à adorer le Seigneur de tout notre cœur. Où est-ce que nous en sommes avec notre tranchant par rapport à notre consécration, notre sanctification, où à chaque moment que nous vivons pour le Seigneur, où que nous soyons, nous sommes travaillés dans notre cœur. Il y a des moments où nous parlons à notre âme, où on se dit non, il faut que tu fasses comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que le Seigneur te veut dans toutes tes voies. Et c'est important pour nous de souvent se poser la question. Où est-ce que j'en suis dans mon tranchant par rapport à ma capacité de pardonner? Parce que des fois aussi, c'est pas difficile. Des fois, c'est pas facile. Des fois, parfois, on est touché, on est blessé injustement. Mais justement, Dieu veut nous amener à grandir. Dieu veut nous amener à une certaine maturité. Comment est-ce que je vais me comporter dans ces moments-là? Et c'est important pour nous de nous poser ces bonnes questions. Comment est notre tranchant dans notre capacité d'aimer et de servir Dieu? Et ce qui est important pour nous aussi, c'est de savoir aussi, c'est de connaître comment identifier les pièges qui nous faiblissent, les pièges qui nous font perdre notre tranchant, des pièges qui peuvent venir et nous faire perdre justement notre efficacité pour Dieu. Et c'est important pour nous justement, et je crois que avec cette relation avec le Seigneur, Dieu veut nous amener à comprendre toutes ces choses. Dieu veut nous amener à développer cette relation et aussi même des fois anticiper beaucoup beaucoup de problèmes par la grâce de Dieu. Et je crois que Dieu ne nous laisse pas ignorants, sinon ne nous cache pas ces choses. Son désir, c'est de s'ouvrir à nous. Mais c'est à nous à développer cette relation avec le Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens pensent que courage plus capacité plus passion plus travail égale succès. Beaucoup de gens disent c'est comme ça qu'on va avoir le succès, c'est ça qui produit le succès. C'est vrai que ces éléments que je viens de citer sont importants aussi, sont des éléments essentiels aussi au succès. Mais pourtant, peut-être plusieurs d'entre nous aussi, nous connaissions des situations, nous connaissions aussi des gens qui spirituellement et dans leur vie sont courageux. Dans leur vie aussi, qui ont de grands talents et de grandes capacités aussi. Ils avaient beaucoup de patience, ils se donnaient à fond, ça travaillait beaucoup pour des fois finir en échec. Et pourtant, il y a ces éléments-là qui, sont rassemblés dans leur vie, et pourtant, ils arrivent justement au bout de leur vie, à un moment donné, finir en échec, et parfois aussi retourner complètement en arrière, et ne pas continuer à s'emparer de ce que Dieu avait pour eux. Mais j'aimerais nous dire ceci, c'est que le succès spirituel, au-delà de ces éléments essentiels tels que le courage, capacité, patience, travail, que le succès spirituel, c'est aussi connaître et comprendre les pièges qui peuvent nous bloquer, les pièges qui peuvent nous paralyser. C'est important pour nous de les identifier aussi, afin que par la grâce de Dieu, nous puissions les éviter. Et j'aimerais justement, en quelques moments, justement nous amener à nous exhorter, à nous fortifier. Et ce message, c'est vrai que c'est un message que nous connaissons bien et combien qui mérite d'être rappelé dans notre marche avec Dieu. L'apôtre Paul, justement, dans son épître que nous venons de lire aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 et 4 disent ceci, « Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce qui est fort, et la Bible nous dit, ce rocher était le Christ. Et la Bible nous dit aussi ceci, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. L'apôtre Paul fait référence aux événements de l'Ancien Testament concernant le peuple d'Israël, concernant le peuple de Dieu à ce moment-là aussi. Tout cela pour nous montrer quoi ? Nous montrer les pièges qui existent d'époque en époque. Bien sûr, peut-être que maintenant, nous n'allons pas nous tenir devant une statue dans cette manière d'idolâtrer quelque chose. Mais l'état d'esprit, c'est toujours le même. C'est toujours le même où toute chose qui prenne la place de Dieu dans notre vie devient une idole. Sans que peut-être aussi on met quoi que ce soit clairement. Mais devant Dieu, c'est une idole. Et l'apôtre Paul, justement, nous amène à comprendre ces choses, à ne pas, justement, faire comme le peuple de Dieu à ce moment-là. Il est dit, ils avaient tous accès à Christ. Ils avaient tous accès à boire et à manger aux richesses et aux dons de Dieu. Le verset 12 dit ceci aussi. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ici, ce n'est pas un fatalisme, ce n'est pas du négativisme. Ce n'est pas, l'apôtre Paul ici ne dit pas, ah, si vous êtes debout, vous allez voir demain, vous allez tomber. C'est pas du tout cette pensée-là. Mais l'apôtre Paul dit, sois alerte. Sois en éveil, réveille-toi, sois alerte par rapport à ta vie aussi, parle à ton âme, parle à ton cœur, réveille-toi spirituellement, réveille-toi, sois en alerte, que celui qui est debout prenne garde de tomber, car il y a un combat qui prend place. Et dans notre vie chrétienne, c'est vrai que là où l'adversaire va beaucoup s'engager, c'est envers ceux qui ont choisi de se consacrer à Dieu, ceux qui ont choisi de s'attacher à Dieu. Mais Dieu aussi ne le laisse pas ignorant de tout ce que le diable entreprend contre nous, contre le peuple de Dieu. Et là, l'apôtre Paul nous exhorte justement à prendre garde de peur de tomber. Le verset 13 dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne aussi. Et l'apôtre Paul dit, « Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je veux que vous sachiez qu'il y a des pièges, il y a des choses. » Et l'apôtre Paul, l'exhortation aussi de l'apôtre Paul, c'est celle-ci. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. C'est vraiment quelque chose pour nous exhorter à faire attention. Ils avaient tous accès, ils avaient tous bu, ils ont bu au même rocher, ils ont goûté au miraculeux. Et c'est vrai que le miraculeux, c'est impressionnant ce que le peuple de Dieu aussi, à cette époque-là, vivait par rapport aux prodiges, par rapport aux manifestations de la puissance de Dieu. Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils sont passés à sec à travers ces murailles d'eau. Ils ont touché le surnaturel de Dieu, ils ont touché le miraculeux. Ils avaient été nourris avec la manne. Et en termes modernes, c'est comme si pour nous aujourd'hui, en termes d'aujourd'hui, c'est comme si que vous aviez été à l'église ensemble. Vous aviez entendu les mêmes messages. Vous aviez accès au même Dieu et au même Seigneur. Vous aviez eu accès aux mêmes onctions, accès aux mêmes richesses et bontés de Dieu, de ce Dieu qui ne fait pas de favoritisme, qui n'a pas de favori, qui n'a pas de chouchou. Vous aviez eu accès, tous accès à ce Dieu qui s'offre et qui se rend disponible à chacun. Nous avions eu tous accès à cela. Et alors tous avaient accès. Mais certains ont poursuivi et se sont emparés de ce que Dieu avait pour eux, et d'autres sont tombés dans les pièges. Et l'exhortation de l'apôtre Paul aussi, de la parole de Dieu aussi à notre égard, c'est de faire attention, c'est d'être en alerte, c'est de veiller. Et le message aussi du Seigneur au verset 12, que celui donc qui est debout prenne garde de tomber. Parce que tous ces pièges dans lesquels ils sont tombés, la Bible nous dit, sont là pour notre instruction. Toutes ces choses-là nous servent d'exemple pour nous avertir. Ils sont là pour nous servir d'exemple. La parole de Dieu nous exhorte aussi. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais nous devons veiller. Nous devons avoir ce cœur en alerte. Nous devons aussi avoir ce cœur qui discerne les pièges. Et je crois qu'au fur et à mesure que nous développons notre relation avec le Seigneur, cette croissance avec le Seigneur, de manière naturelle, le Seigneur aussi va nous amener aussi à anticiper des choses, à voir des choses, à entrevoir des choses, afin de pouvoir les éviter et aussi anticiper. Je crois que la vie chrétienne, c'est aussi ça. J'aimerais aussi dire ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, qui dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Là, il s'agit de... c'est vrai que c'est l'apôtre Paul qui parle, mais il pourrait aussi celui qui, justement, qui comprend les choses de Dieu, qui discerne les choses, peut aussi être amené aussi à dire, à dire ceci, nous n'ignorons pas ses desseins. Mais la vérité, c'est que il y a des chrétiens qui ignorent complètement les desseins de l'ennemi. C'est pas tout ce qui pourrait dire aussi, car nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Il y en a certains qui pourront leur dire parce qu'ils vivent souvent des choses, ils comprennent des choses. Dieu leur ouvre les yeux sur certaines choses, sur des choses qui fait que ils comprennent et puis au fur et à mesure on discerne les choses, on voit les choses. Mais l'apôtre Paul dit, son désir, c'est de nous amener aussi à pouvoir dire la même chose. On n'est pas ignorant de comment Satan opère. On n'est pas ignorant des pièges qu'il va tendre. Et Dieu nous exhorte justement à cela. Voyons ensemble justement quels sont ces pièges qui ont eu à voir aussi avec le peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Nous connaissons bien l'histoire du peuple d'Israël, ses attitudes, ses comportements, ses murmures et toutes ces choses-là. Nous voyons justement dans l'histoire du peuple d'Israël des pièges qui sont spirituels et mortels aussi. Et je vais juste énumérer aussi ces pièges où on voit justement l'apôtre Paul nous rappeler aussi ces pièges à travers le passage de 1 Corinthiens chapitre 10. Il y a l'impatience et l'idolâtrie. Il y a l'incrédulité et l'insécurité. Il y a l'inconduite et l'immoralité. Il y a l'indifférence et la rébellion. C'est toutes ces choses-là qui ont amené le peuple d'Israël à être piégé. À être piégé dans leur marche avec Dieu, bien qu'ils ont touché au miraculeux, bien qu'ils ont marché avec la gloire de Dieu, avec Dieu qui les conduisait dans la colonne de nuée, dans la colonne aussi de feu et toutes ces choses. Mais il y a un autre piège aussi que j'aimerais voir aussi avec vous ce matin, c'est le piège de l'ignorance concernant l'invisible. Et ça, c'est quelque chose qui doit faire partie aussi de notre marche avec Dieu. L'apôtre Paul, quand il parlait à l'exemple de ces pièges du passé, avec le peuple de Dieu, avec le peuple d'Israël, c'était l'exemple en fait d'un peuple qui marchait et qui réagissait à ce qu'il voyait. Ils tenaient compte uniquement avec leur sens naturel et humain, seulement. Alors que sans comprendre que parfois à cause de certains comportements, sans comprendre que parfois à cause de certaines attitudes, certains murmures, ils ont pas compris que parfois il y a eu à un moment donné où tout un univers spirituel qui a pris place. Et nous devons faire attention aussi, plus nous allons avancer aussi dans notre vie avec Dieu, faire attention. Nous savons très bien aussi que lorsque certaines attitudes sont là, ou sinon des comportements qui sont complètement... On sait très bien qu'il y a certaines choses, il y a certains comportements où ça va apporter des conséquences. Et dans notre marche avec le Seigneur, c'est important. Et le peuple d'Israël, dans sa manière de marcher, il marchait avec des comportements sans faire attention qu'il y avait tout un univers spirituel qui a pris place aussi. Et c'est important pour nous de prendre conscience et de réaliser toutes ces choses. Le Seigneur Jésus dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Mais dans le même verset, le Seigneur Jésus aussi dira ceci, « Satan est venu pour voler, tuer et détruire. » En même temps, on voit la volonté de Dieu, le désir de Dieu de nous donner cette, de nous communiquer, de nous procurer cette vie en abondance. Mais on voit aussi en même temps la volonté, la détermination aussi de l'ennemi. Il est venu pour tuer et détruire. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons, dans certains endroits, il y a tout un christianisme soi-disant moderne qui s'ouvre au Sauveur et uniquement à ce qui est du salut, uniquement à ce qui est de la grâce, seulement cela. Mais il n'y a pas de maturité spirituelle, il n'y a pas de croissance spirituelle, il n'y a pas où cette vie où justement le fruit du Saint-Esprit se développe en nous. Il n'y a pas toutes ces choses. Il y a uniquement centré sur le Sauveur, sur la grâce, sur le pardon des péchés et le salut. Uniquement sur ces choses. Et qui nie complètement l'existence satanique. Nous devons veiller, mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ne nient pas ces choses. Ils croient dans ces choses, mais ils sont tombés dans une certaine négligence et ignorance concernant l'invisible, concernant les œuvres sataniques. C'est pas souvent que je prêche sur ce thème-là, mais c'est important que parfois que l'Église soit informée de sa place dans ce monde et de la réalité du combat spirituel qui prend place aussi contre l'Église, contre l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est important que nous comprenions ces choses. Le Seigneur Jésus croyait en Satan dans le sens que il savait et croyait aux œuvres et aux manifestations sataniques. Le Seigneur savait ces choses. Il croyait dans toutes ces choses. Et il savait aussi que quand certaines actions sont menées de la part de Dieu, poussées par Dieu, et il sait aussi qu'à ce moment-là, il y a des défaites, il y a des victoires du royaume de Dieu contre les puissances des ténèbres. Le Seigneur Jésus n'était pas inconscient de toutes ces choses-là, il voyait ces choses-là. Et parfois, il dit même aussi à ses disciples pour les encourager, « Alors que je vous ai envoyé, je voyais Satan être précipité du ciel. » Le Seigneur Jésus a confronté Satan, le Seigneur nous avertit sur ce qui est satanique aussi. Il faut que nous réalisions qu'au-delà du monde visible que nous voyons, il y a aussi des pièges invisibles. Et c'est important pour nous de tout au long de notre vie. Un des pires pièges dans lequel les chrétiens et les leaders peuvent tomber, c'est de vivre seulement dans le domaine du visible. Seulement dans le domaine du visible. Tout comme le peuple d'Israël à cette époque-là. Alors qu'en réalité, il y a une dimension de l'invisible qui prend place. Et à chaque jour, il y a un combat spirituel qui prend place aussi dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, à chaque jour aussi, c'est vrai qu'il y a une bénédiction de Dieu, mais à chaque jour aussi, il y a aussi un combat spirituel. Quand tu te lèves le matin, au-dessus de toi, il y a une destinée bénie. C'est celle du Seigneur, c'est cette volonté de Dieu, ce désir de Dieu d'investir pour toi, pour nous bénir. Mais au-dessus de toi aussi, il y a aussi une destinée, celle qui est satanique. Ça, c'est une réalité aussi. Et c'est ton choix, c'est ton discernement, c'est ton choix de la journée et les armes que tu vas employer qui va faire toute la différence. Et ça, ce sont des choses que le Seigneur veut que nous comprenions, que nous développions en nous. Et retenons bien ceci. Et dans le combat contre les ténèbres, nous devons bien retenir ceci. Les armes humaines sont sans effet. J'ai beau être le meilleur prédicateur qui facilement lit un passage et puis après dans sa tête facilement développe les points et qui vient prêcher sans une relation avec le Seigneur, sans une réclamation de l'onction de Dieu, de l'action du Saint-Esprit, si je n'ai pas cette relation-là avec Dieu, tout ce que je pourrais faire n'a aucun effet contre les puissances des ténèbres. Je peux être le meilleur chanteur de toute la terre. Mais s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit, s'il n'y a pas cette relation avec Dieu, cette action du Saint-Esprit dans ma vie, je ne peux même pas toucher. Et quand je vais entendre beaucoup de gens qui vont m'applaudir certainement, qui vont dire « Ah, c'était bien », mais c'est tout. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas une action du Saint-Esprit qui fait que le miraculeux prend place au milieu de nous. Il n'y a pas toutes ces choses. Alors n'oublions, nous vivons dans un monde où on met beaucoup en avant là, ce qui frappe les yeux, ce que les gens aiment seulement voir. Mais c'est pas ce qui est en Dieu, c'est pas ça qui va toucher le cœur de Dieu. On sait très bien que Dieu va plus loin que cela. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde à la motivation derrière. Si c'est une motivation qui est pure, qui est saine, qui est à la gloire de Dieu, là Dieu se manifeste. Et c'est important pour nous de ne jamais oublier ceci, c'est que les armes humaines sont sans effet. Toutes nos capacités humaines, des talents naturels, sans l'onction de Dieu, sans l'action et la vie du Saint-Esprit, n'a aucun effet contre les puissances des ténèbres. Et pour le combat contre les ténèbres, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour la parole de Dieu, pour les promesses de Dieu, où je vais aussi apprendre par cœur des choses à un moment donné, pendant que je médite, Dieu me parle, Dieu me fait cette promesse, et je sais cette promesse dans mon cœur. Ça, c'est les âmes auxquelles nous devons nous procurer. C'est la prière, c'est la consécration, c'est être constamment en alerte, c'est la repentance, ou même des fois, il y a une certaine injustice, même si j'ai été touché. Je sais que c'est pas moi qui a fait ces choses-là, mais Dieu m'exhorte au pardon. Dieu m'exhorte au pardon. Dieu me pousse à bénir. Dieu me pousse à engager ma volonté à bénir celui qui m'a offensé. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dévaloriser l'œuvre de la croix. Je ne veux pas me mettre plus en avant à cause de mes souffrances. Mais c'est la croix que je veux mettre en avant et dire « Je loue le Seigneur pour ce sacrifice parfait qui a fait que j'ai une raison d'être. Je suis, Dieu m'a touché pour l'éternité. » Et pour rien au monde, je veux interrompre ces choses. Même si des fois c'est sûr que c'est pas toujours évident, ça nous fait mal. Mais Dieu nous exhorte, Dieu nous pousse à engager notre volonté et même aussi à confesser pour que notre être tout entier nous écoute dire « Je confesse et je prends la décision de bénir celui ou celle qui m'a offensé. » Et ça, c'est une bénédiction. Et même des fois, encore même aussi en confessant, on sent encore que les choses sont là, on continue, on persévère jusqu'à cette paix qui vient de Dieu, qui surpasse toute intelligence et qui nous aime, qui nous amène à ce moment-là à aimer cette personne-là. Ça, c'est l'action de Dieu, c'est la repentance. Ce sont les armes spirituelles. Pour le combat contre les ténèbres, c'est toutes ces choses. L'apôtre Paul aussi nous dit ceci dans Éphésiens que... Un passage aussi que nous connaissons bien. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Où l'apôtre Paul nous dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est notre combat. Mais plus que ces choses, développons notre relation intime avec le Seigneur. Et toutes les choses sont secondaires. Mais la première chose, là où nous devons développer, là où nous devons protéger, c'est cette relation d'amour avec celui qui a donné sa vie pour nous. C'est cela, premièrement, que nous devons développer. Et au fur et à mesure que nous apprenons à entendre la voix du Seigneur, à discerner la voix du Seigneur, la parole de Dieu, que tout comme Marie qui venait, puisse s'asseoir dans la présence du Seigneur, qui entendait, qui buvait les choses de Dieu, ou en même temps aussi, je suis sûr qu'en même temps que le Seigneur partageait les choses, en même temps aussi Dieu déposait dans son cœur, aussi dans le cœur de Marie, l'intention de Dieu. Et au fur et à mesure que nous allons développer cette relation avec le Seigneur, au fur et à mesure, Dieu va déposer aussi dans notre cœur ce qu'il est, les aspects de sa vie, afin que nous puissions grandir dans le Seigneur aussi. Et ça, toutes ces choses-là, ça fait partie de cette relation. Et premièrement, c'est pas le combat spirituel d'abord. Premièrement, c'est cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, cet amour pour sa parole, plus que tout par-dessus. Mais après, et c'est vrai, après cela va nous amener aussi, bien entendu, aussi des fois après, justement, à lier au combat spirituel. Mais c'est pas le contraire. Il y en a qui s'amusent alors qu'ils ont, ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Il n'y a même pas justement cette intimité, cette relation d'amour avec le Seigneur. Parfois, on pense que c'est plus spirituel de lier toute forme d'esprit mauvais ou quoi que ce soit. La chose la plus importante où Dieu nous demande de développer, c'est notre relation d'amour avec lui. Et au fur et à mesure, Dieu mettra sur notre cœur, Dieu ouvrira notre cœur, notre intelligence par rapport aussi à tout ce qui est spirituel aussi, et même aussi au combat spirituel. Dans le psaume 91, où il est dit ceci, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Les trois premiers versets disent ceci aussi. « Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et le psalmiste dit « Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. » Dans certaines versions, c'est le filet. Dans la version Darby, c'est le mot « piège ». Dans le piège qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. « Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur. » En hébreu, c'est le mot mokesh, qui veut dire trappe. Une trappe, justement, de piège. Et l'oiseleur, justement, c'était l'attrapeur d'oiseaux aussi. Et ça, c'était un travail aussi à l'époque. C'était un travail, c'était un métier, c'était tout un art aussi. Parce que les oiseaux rares étaient très prisés aussi par les riches de l'époque. Et justement, le travail de l'oiseleur, l'art de l'oiseleur, c'est de façonner, de fabriquer un piège. Un piège, justement, pourquoi ? Parce que, justement, pour avoir les oiseaux les plus rares aussi. Et là, par rapport à ces pièges, il étudiait sa proie. Il étudiait l'oiseau qu'il voulait attraper. Et ça, c'est pour ça qu'on parle d'art, justement, parce qu'il étudiait toutes ces choses. Il étudiait ses habitudes, les habitudes de tel ou tel oiseau, son entourage. Il étudiait ses goûts, ses désirs, ce qui l'attire, les couleurs qui attirent ces espèces d'oiseaux, les nourritures qui l'attirent aussi. Et pour chaque oiseau était particulier. Et pour chaque oiseau, il y a aussi des pièges qui sont particuliers aussi. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là aussi que dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'invisible, dans le combat spirituel, les ténèbres aussi ont des plans. Les ténèbres aussi ont des pièges différents pour chacun d'entre nous. Écoutez bien ceci, il y a certaines tentations qui sont universelles pour tous. Il y a des tentations aussi qui ne sont peut-être pas pour toi aujourd'hui, mais qui l'est pour ton frère ou ta sœur. Il y a certaines tentations aussi que tu peux avoir à 22 ans, que tu as moins quand on prend de l'âge aussi. À toute partie de notre vie, il y a des tentations que tu peux avoir à différentes périodes de ta vie, ou à différents moments de ta vie, ou à différentes positions sociales aussi que tu auras dans ta vie. Il y a différentes tentations. Il y a des tentations que tu peux avoir à différents moments du ministère, aussi ton ministère, à différents moments alors que tu sers Dieu. Mais toutes ces choses-là, le diable aussi s'organise pour nous toucher aussi. Mais nous devons être de ceux, comme l'apôtre Paul dit, mais nous n'ignorons pas ses desseins. Et je sais que le meilleur moment pour moi, le bon moment pour moi, et le meilleur endroit pour moi, c'est d'être auprès de mon Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et pour terminer, j'aimerais dire ceci, ou Dieu va dire ceci aussi, à partir du verset 14. Puisqu'il m'aime, puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Frères et sœurs, le plus beau nom qui ait été donné parmi les hommes, c'est le beau nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et Dieu veut nous exhorter à développer cette relation, bien que nous savons qu'il y a des pierres, mais en tout premier lieu, c'est ma relation avec le Seigneur, en tout premier lieu, que je veux développer, que je veux protéger, plus que toute autre chose. Et c'est là que tout commence, et c'est là aussi qui fait que je vais me placer à l'abri du Très-Haut, je vais me reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous fortifie et nous garde chaque jour, chaque instant qu'il nous donne. Merci Père Céleste pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta maison. Ta maison sera appelée une maison de prière, une maison où tu t'y plais à te manifester, où tu t'y plais, Seigneur mon Dieu, à nous exaucer, à nous faire connaître ton amour pour nous, cet amour parfait pour chacun de nous. Alors que nous sommes des pécheurs sauvés par ta grâce, Seigneur. Nous n'avons aucune justice, nous n'avons aucune chose qui pourrait nous mettre en avant, si ce n'est que ta grâce qui nous a touchés, nous a sauvés, qui a ouvert nos yeux alors que nous étions aveugles. Ô Père Céleste, bénis ta parole dans nos cœurs. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette assemblée. Merci pour ce cœur qui aime ta parole, qui t'aime par-dessus tout. Et continue, Père Céleste, de nous bénir, de nous fortifier au nom de Jésus. Père Céleste, merci pour ta grâce chaque jour, chaque instant que tu nous donnes. Ô Père, sois béni encore, sois élevé. Je te prie encore pour toutes celles et ceux, certainement qui passent par des moments difficiles. Mais Père Céleste, dans ces moments difficiles, tu es au-dessus de tout. Et Père Céleste, je te prie pour que celui ou celle qui passe par des moments difficiles puisse ressentir cette joie profonde, ce sentiment que le Tout-Puissant l'accompagne au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ton renouvellement ce matin à chacune et à chacun de nous. Merci d'étendre ta main sur chaque famille que nous représentons. Père Céleste, tu vois nos cœurs, Seigneur mon Dieu, qui parfois vont vers nos enfants, vers nos amis, vers tous ceux qui sont dans le besoin. Merci de poser ta main et de manifester ton amour et ta puissance par l'onction du Saint-Esprit. Et au nom de Jésus, te demandons toutes ces choses. Père Céleste, à toi seul toute la gloire, la louange et l'honneur pour toujours et pour les siècles et des siècles. Amen.